France Culture, il est 23h, les voies de l'imaginaire s'ouvrent à vous. Rien n'est trop beau, rien n'est trop fou, tout est possible.
Création on air. On air. On air. Creation on air.
Gilles Deleuze a écrit « Dionys Mascolo est un des auteurs qui ont le plus intensément renouvelé les rapports de la pensée et de la vie ». Cette phrase, pour accompagner une rediffusion des Nuits magnétiques du 13 novembre 1997, que Jean-Marc Turine avait consacré à celui qui déclinait le mot « révolte » avec celui de l'aventure et incarne l'esprit qui dit non. Sa vie, fondée sur l'engagement et l'amitié, se tresse avec celle de Robert Antelme, Maurice Blanchot, Marguerite Duras. Le bureau de Dionys Mascolo, une vie placée sous le signe de la révolte, par Jean-Marc Turine et Dominique Costa.
C'est aujourd'hui principalement la volonté de l'armée qui entretient ce combat criminel et absurde. Et cette armée, par le rôle politique que plusieurs de ses hauts représentants lui font jouer, agissant parfois ouvertement et violemment, en dehors de toute légalité, trahissant les fins que l'ensemble du pays lui confie, compromet et risque de pervertir la nation même en forçant les citoyens sous ses ordres à se faire les complices d'une action factieuse et avilissante. Faut-il rappeler que 15 ans après la destruction de l'ordre hitlérien, le militarisme français, par suite des exigences d'une telle guerre, est parvenu à restaurer la torture et à en faire à nouveau comme une institution en Europe. C'est dans ces conditions que beaucoup de Français en sont venus à remettre en cause le sens de valeurs et d'obligations traditionnelles. Qu'est-ce que le civisme, lorsque dans certaines circonstances il devient soumission honteuse? N'y a-t-il pas des cas où le refus est un devoir sacré, où la trahison signifie le respect courageux du vrai? Et lorsque par la volonté de ceux qui l'utilisent comme instrument de domination raciste ou idéologique, l'armée s'affirme en état de révolte ouverte ou latente contre les institutions démocratiques, la révolte contre l'armée ne prend-elle pas un sens nouveau? Les sous-signés considérant que chacun doit se prononcer sur les actes qu'il est désormais impossible de présenter comme des faits divers de l'aventure individuelle, considérant qu'eux-mêmes, à leur place et selon leurs moyens, ont le devoir d'intervenir, non pas pour donner des conseils aux hommes qui ont à se décider personnellement face à des problèmes aussi graves, mais pour demander à ceux qui les jugent de ne pas se laisser prendre à l'équivoque des mots et des valeurs, déclare « Nous respectons et jugeons justifié le refus de prendre les armes contre le peuple algérien. Nous respectons et jugeons justifié la conduite des Français qui estiment de leur devoir d'apporter aide et protection aux Algériens opprimés au nom du peuple français. La cause du peuple algérien qui contribue de façon décisive à ruiner le système colonial est la cause de tous les hommes libres. » Arthur Adamoff, Robert Antelme, Hélène Balfay, Simone de Beauvoir, Maurice Blanchot, Roger Blin, Florence Malraux.
En ouverture de cette deuxième heure, André Wilms nous a lu quelques lignes extraites de la Déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, plus connue sous le nom de Déclaration des 121. Jacques Doniol Valcroze. Cette déclaration, dont Dionys Mascolo est l'initiateur en 1960, connaîtra un retentissement international important puisque les Américains, réfractaires dans la guerre du Vietnam, s'en inspireront. Mais avant d'en arriver à cette date, nous vous invitons, avec l'aide de Jean-Pierre Saez, à découvrir le parcours politique de Dionys Mascolo. Léon Sherman.
Comment mûrit en vous l'idée de vous engager dans la résistance?
Je risque de simplifier un peu, mais cet engagement dans la résistance n'a eu lieu qu'en septembre 43, vous voyez, donc tardivement. Et j'avais fait la connaissance entre-temps, au printemps de 43, de Robert Antelme. Ils habitaient déjà rue Saint-Benoît, et c'est rue Saint-Benoît que un ami chrétien de Robert Antelme ami commun de Robert et de François Mitterrand, lui a proposé d'entrer dans le mouvement de résistance de Mitterrand, le mouvement national des prisonniers de guerre et déportés. Et nous avons adhéré ensemble, Marguerite, Robert et moi, le même jour, en présence de Mitterrand et de cet ami. Je crois, j'ai évoqué ce souvenir, l'odeur des fumées de cigarettes anglaises flottait dans la pièce, puisque Mitterrand était rentré depuis peu d'Angleterre avec une provision de cigarettes.
Et quelles étaient vos motivations ?
Pour moi, encore une fois, je risque d'être un peu auto-dépréciatif, mais à mon souvenir, c'était un peu comme en 40, la guerre avait été pour moi l'occasion d'éprouver ma lâcheté ou mon courage. Et là, c'était peut-être le goût de l'aventure. C'était l'aventure individuelle plus que tout motif métaphysique, politique ou morale.
Dans quelles circonstances rencontrez-vous Edgar Morin ?
Je ne me souviens pas. Je me souviens de certaines rencontres qui avaient lieu du côté du Panthéon. Et c'est lui qui m'a appris que contrairement à ce que nous faisions, nous qui nous réunissions à 7, 8, 9. C'est d'ailleurs dans une réunion nombreuse que, ainsi que Robert et sa sœur ont été arrêtés, chez elle, sa sœur. Bref, Edgar Morin m'a appris que lui, communiste, ne connaissait que deux autres résistants. C'était la résistance communiste alors m'est apparue beaucoup plus sérieuse que la nôtre, précisément à cause de telles précautions, c'est-à-dire que si Edgar Morin avait été arrêté, eh bien sous la torture il n'aurait jamais pu donner que deux noms au lieu que nous aurions pu en donner 7, 8 ou 10.
La rencontre avec Edgar Morin vous a-t-elle conduit à vous engager immédiatement dans le Parti communiste ?
Oh, pas du tout. Pas du tout, non. Je ne crois pas que j'avais lu encore rien de Marx, ou presque pas. Je lisais Michelet. Et c'est Michelet qui m'a politisé l'histoire de la Révolution française. Après la Libération, il m'a semblé en tout cas, que le fait que la Russie soviétique ait participé avec les démocraties à la défaite du nazisme avait modifié quelque chose dans la société post-léninienne, stalinienne, disons. Et que ce qui avait eu lieu avant la guerre, qu'il n'y aurait pas de récidive dans ce sens-là. Enfin, le soupçon existait tout de même encore, puisque Robert et moi, par exemple, avons tardé jusqu'au printemps 46 à nous inscrire, suivant cela l'exemple de Marguerite, qui, elle, s'était engagée dès décembre 44. Je dois dire dans un mouvement d'effusion, un peu comme on entre en religion, enfin. Elle est devenue, à ce moment-là, une sorte de nonne du PC.
Thank you.
Jacques-Francis Roland, les discussions devaient être quelquefois vives, rue Saint-Benoît.
Oui, les discussions politiques ont commencé, si vous voulez, à partir de 1947 avec le jdanovisme culturel. Et tout de suite, Dionys, comme Marguerite, ont tiqué sur certains aspects de la politique culturelle du parti. Alors moi, je jouais justement les vieux bolcheviks parce qu'ils parlaient déjà de « si ça continue comme ça, ça va nous poser des problèmes ». J'ai dit « mais écoute, c'est tout à fait secondaire à côté de l'immense espérance que nous représentons. Bon, il y a des grincements dans la machine, c'est vrai, moi non plus, ça me plaît pas, mais il faut pas, on quitte pas une armée parce qu'il y a un adjudant chef qui est désagréable. » Vous voyez, je jouais les sages et les vieux bolcheviks. Marguerite était une militaire très, très, très active. Elle allait souvent à la section, elle participait à des réunions. Dionys, lui, il voulait écrire, il préparait déjà il envisageait déjà d'écrire sur le communisme. Dès qu'il rentrait de chez Gallimard, il se mettait dans sa chambre, il prenait une bière, puis il commençait à travailler, et il n'allait pas aux réunions de cellules. Et quand Semprun lui reprochait, il disait, mais c'est bien d'être communiste, mais pas uniquement en pensée, tu te rends compte qu'il faut faire des choses. Et oui, bien sûr, disait Dionys, mais en fait, il n'allait pas tellement coller les affiches, parce qu'il estimait, d'abord ça l'embêtait, et puis en plus, il estimait que, vu son travail chez Gallimard, il ne disposait que de fort peu de temps pour ses travaux personnels.
Mais peut-on dire cependant que c'est l'expérience de Robert Antheim qui vous conduit collectivement en 1946 vers l'idée communiste, vers l'exigence communiste, ce que vous appelez l'exigence communiste?
En effet, cela a joué sans doute un rôle prépondérant. Oui, c'est l'une des... Oui, à l'intérieur de toutes les raisons que l'on avait alors, et nous n'étions pas les seuls, à épouser le projet communiste, certainement l'expérience de l'occupation elle-même, ce que nous avons appris d'une manière générale, et en particulier l'expérience donc toute proche qui nous était communiquée de façon intime par Robert, a joué certainement un rôle prépondérant, oui, oui.
Et ces raisons dont vous parlez, quelles étaient-elles, ces raisons d'épouser la cause communiste?
La vision de l'injustice réelle, de l'inhumanité réelle, en opposition avec l'idée de la justice et de l'humanité, de la bonté... le correctif à tout ce qui provoque l'indignation, la révolte. L'idée communiste, pour nous, c'était aussi une manière de parvenir enfin à appartenir à ce que désigne le mot peuple, duquel nous étions... plus ou moins séparés par des habitudes singulières, peut-être d'esthètes, comme je disais tout à l'heure, qui nous mettaient à part du peuple. L'idée communiste nous réintroduisait dans le peuple, qui est un mot d'une définition difficile. C'est l'idée de peuple.
Pour prendre la question plus généralement, cet attachement qu'ont eu certains intellectuels à l'égard du Parti communiste, qu'est-ce qu'ils y ont rencontré?
Pardon, je vous contredis tout de suite, il ne s'agissait pas d'attachement à l'égard du Parti communiste. Nous avions un mépris complet pour le Parti communiste en tant que tel qu'il était constitué. Mais il représentait, aux yeux du peuple, l'idée communiste. C'est dans cette mesure-là que nous nous sommes approchés de lui avec la ferme intention, comme vous savez, de tenter d'opérer des réformes à l'intérieur même de cette formation politique.
Avec le début de la guerre froide, le Parti communiste français introduit un nouveau débat sur le rôle de la culture par rapport à la politique. Et dans ce débat, vous allez prendre une part déterminante, vous les amis de la rue Saint-Benoît. En fait, c'est le jdanovisme qui entre en scène. Comment vous réagissez à ce moment-là?
Eh bien, très vite, Bon, par exemple, j'ai fait une interview d'Elio Vittorini avec Edgar Morin qui a été publiée dans l'hebdomadaire du parti, les Lettres françaises, oui. Qui était anti-danovienne. Elio Vittorini était l'auteur de la Lettre à Togliatti où il défendait les droits à l'autonomie de la culture au sein même de l'entreprise révolutionnaire.
Finalement, vous décidez à démissionner du parti à la fin de l'année 49.
Oui. Vous savez, nous avions adhéré dans un manque de conviction tel qu'il suffisait que vienne la goutte d'eau, comme on dit, qui fait déborder le vase, et ça a été, comme je crois vous l'avoir dit, la récidive des procès de style stalinien, dont nous pensions que l'époque était révolue. Ça a été, alors, je vous dis, le point final.
Et comment se déroule cette démission? Vous envoyez une lettre
Oui, une lettre où je me déclare d'accord avec la politique du parti et où je dis que pour des raisons personnelles, je ne reprends pas ma carte.
Et pourtant, cette démission sera suivie d'une exclusion, parce qu'on ne démissionne
quelques
pas.
Quelques mois après, oui, en effet. J'ai toujours été habité par l'idée communiste et c'était même au nom de l'idée communiste que je quittais le parti faussement appelé communiste, à mes yeux.
Et quelles raisons a avancé le Parti communiste, justement, pour vous exclure?
Des raisons... désaccords politiques, justement. Désaccords politiques, fréquentation, c'était tout à fait inventé. Fréquentation d'attachés d'ambassade yougoslave, j'ai jamais connu un yougoslave. Et fréquentation de David Rousset, ennemi du parti. Et alors que je connaissais David... D'ailleurs, Dans la lettre de protestation que j'écris, j'ai dit que j'ai connu David Rousset comme je connais beaucoup d'autres écrivains, étant donné le métier que je faisais, qui est un métier qui se faisait dans les milieux de l'édition.
À partir de 1955 commence une nouvelle époque pour la bande de la rue Saint-Benoît.
55.
Oui.
Vous faites allusion à la fondation du comité des intellectuels français contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord. Car au moment où il a été fondé, il y avait la question de la Tunisie et du Maroc aussi. Peu après, il devait devenir le comité, etc., contre la poursuite de la guerre en Algérie, puisque seule l'Algérie était en cause encore un peu après.
À quel moment est créé ce comité d'action des intellectuels contre la poursuite de la guerre en Algérie ?
À l'automne 55, je crois, à l'automne 55. Nous publions il y a plusieurs réunions, une réunion inaugurale. Ah, mais oui, mais même, ça a été l'occasion pour Breton a assisté à la réunion inaugurale. Et il a dit que ce comité donc contre la poursuite de la guerre en Algérie avait été l'occasion pour les surréalistes de sortir d'un isolement politique où ils étaient confinés depuis la fin de la guerre, malgré tous leurs efforts pour en sortir, quelque chose d'analogue. Beaucoup d'écrivains, y compris des écrivains qui étaient assez éloignés de nous en pensée, comme Mauriac ou Martin Dugard, ont adhéré à ce comité. Nous avons publié alors régulièrement un bulletin qui était renéotypé par les soins des éditions du Seuil, je crois. Oui.
Quels étaient les autres animateurs de ce comité?
Mes souvenirs sont un peu incertains, mais il y avait en tout cas Edgar Morin, Robert Antelme et Marguerite Duras, bien entendu, Edgar Morin,
Louis-René Desforêts, je crois, sûrement Claude Roy, Robert Cherami. Alors, parmi les membres, il y avait très peu, parmi les adhérents, il y avait très peu de membres du PC. Il y avait cependant, qui sont toujours restés proches de nous, tout en restant affiliés au parti, Hélène Parmelin et Pignon. Et ce qui nous amène, si vous voulez, au moment de la dissolution de ce comité qui intervient, sur ma proposition d'ailleurs, au cours d'une réunion générale, il y avait une très grande assistance, je ne me souviens plus de la salle, mais où j'ai pris la parole pour indiquer, c'était après l'écrasement de la révolution hongroise par l'armée russe. Et je mettais en demeure les membres du parti de résoudre la contradiction où ils étaient. On ne pouvait pas à la fois militer pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en Algérie et approuver l'écrasement des Hongrois en Hongrie. Je leur demandais donc de résoudre à eux-mêmes cette contradiction et je leur conseillais de s'éloigner de nous. À la suite de cette réunion, il y a eu les staliniens, disons, ont refusé de démissionner et il y a eu autodissolution, c'est-à-dire nous avons baissé les bras, nous avons décidé de ne plus poursuivre l'activité du comité. Et il nous semblait absolument impossible, comme je l'avais dit, d'entretenir d'entretenir une entreprise qui aurait été une sorte de manifeste de double conscience. Nous ne pouvons pas vivre dans la double conscience.
À Győr, on m'a signalé que la route était coupée par des chars russes. Un peu plus loin, à Komárom, j'ai aperçu dans un champ un militaire en train de revêtir des effets civils. Et puis ce furent Nezmeli, Chuto, Pilis Voroslav. Là, tout à l'heure, un groupe de partisans emmenait un prisonnier. On chuchote ici que l'on pend d'anciens chefs communistes dans plusieurs villages. Et à présent, je suis à Budapest. Il est 15 heures.
C'est un char russe qui vient de passer. Sur le pont qui traverse le Danube, une douzaine de chars soviétiques sont en ce moment en position et les canons braqués dans un sens comme dans l'autre. On entend un coup de canon, non?
Oui, pour ne pas terminer encore les luttes.
De temps à autre, et maintenant ça devient presque habituel, nous passons sous un affût de canons. C'est un tank qui est là au coin d'une rue. Il y en a partout maintenant, vraiment, nous sommes en plein centre de la ville. En voici un d'ailleurs, dont le moteur est en marche, et vous pouvez l'entendre ici. C'est la rue Balaton. Et dans toute l'enfilade de cette rue, il y avait peut-être 30, 40 chars qui étaient massés sur deux rangs.
L'année 1956 est riche d'événements considérables, à la fois dramatiques, mais aussi porteurs d'espérance. Le rapport Khrouchtchev qui dénonce les crimes de Staline, et puis ensuite l'insurrection hongroise et les événements de Pologne. Comment vivez-vous ces événements?
Ah, dans un état d'exaltation inouïe. C'est alors, vous savez, que nous avons entrepris en plein hiver un voyage dans ma voiture, Robert Antelme, Edgar Morin et Claude Lefort et moi, pour aller en Pologne, qui a été un éblouissement pour nous.
Oui, c'est un épisode qui fut très important pour nous, parce que sur l'invitation de Georges Lisowski, qui dirigeait une revue polonaise qui s'appelait Tvorzok, et qui était, disons, une revue culturelle qui exprimait, disons, les idées antistaliniennes, les idées critiques, une revue d'ouverture, parce que l'ouverture culturelle avait commencé en Pologne en 1955. Bref, il nous invite, plutôt il invite Dionys, et Dionys dit, mais oui, il va y avoir Anthelme, Morin et Lefort. Donc on est tous les quatre invités. Alors, il y a un premier problème, c'est que nous décidons d'aller en voiture, mais il n'y a pas de voyage en voiture. La seule chose qu'on puisse faire, c'est que on prenne le train, mais on n'avait pas envie d'aller en train. Et d'autre part, comme il n'y avait pas de représentation diplomatique d'Allemagne de l'Est, il fallait passer par de toute façon par le consulat soviétique et puis le consulat évidemment polonais. Alors nous sommes allés. Et moi, je leur ai dit, parce que moi, je connais bien tous les systèmes de démocratie populaire, ils vont demander par quel moyen voulez-vous aller. Répondons, chemin de fer. Alors, première petite tricherie, nous avons les visas. Et nous décidons de partir, je crois que c'est le début de l'hiver 57, je crois, en janvier, je crois. Et il y a un premier épisode comique, c'est qu'on partait pour la Pologne, pour le froid, en janvier. Et du reste, on est tellement dans cette psychose que, en quittant, je crois, la porte de la Villette, parce qu'il n'y avait pas l'autoroute de l'Est à l'époque, brusquement, Robert s'écrie « Halte, il y a de la glace !» On s'arrête, on va voir, c'était une tache d'huile, évidemment, qu'il y avait sur la route. Mais déjà, il y avait la psychose du gel. Alors, nous roulons avec le papier soviétique qui était très important. On nous laisse passer en zone est en Allemagne. On décide de faire étape nocturne à Francfort sur Oder, où on arrive littéralement comme des martiens. Francfort sur Oder, c'est la ville qui sépare la Pologne de l'Allemagne. D'abord, on arrive en voiture, immatriculation française, un peu incroyable. Et puis, tout le monde se méfie de nous. On nous prend pour des gens du KGB, n'est-ce pas? Et on essaye de trouver un restaurant où bouffer. Puis, quand des gens commencent à comprendre qu'on est français, ah, très bien, oui. Alors, un type nous dit, c'est vrai que la tour Eiffel va s'effondrer. Non, c'est pas de nouvelles. Il dit, c'est encore notre propagande qui raconte ça. Enfin, bref, les gens sympathisent avec nous à l'extrême. Et puis, après le dîner, on décide de continuer. Et puis, on avait un mot magique pour nous, c'était caviarne, hein, c'était taverne. On voulait savoir des tavernes. Alors, on s'arrête, on voit une femme, on dit caverne, la femme voit cette voiture, qu'elle pense aussitôt être une voiture officielle ou soviétique, elle crache sur nous et passe. Alors on fait trois ou quatre fois la même demande, même réponse, même type de réponse de haine. Finalement, je dis, attendez, Franzouski, caverne. Ah, à ce moment-là, on tombe dans les bras, on amène dans une sorte de cabaret, là, où ça buvait de la vodka dans les grands verres, comme vous savez, comme là-bas. Et de cabaret en cabaret, on arrive à Poznan, pour être logé à l'hôtel Orbis, l'hôtel pour étrangers, où curieusement, tout le monde était sous, parce qu'à minuit, il y avait une interdiction de boire, le lendemain était un jour d'élection. Et évidemment, il fallait que les gens soient sobres le jour de l'élection. Et nous continuons notre voyage jusqu'à Varsovie, en prenant clandestinement de temps en temps un peu de vodka dans des tasses de thé. Parce qu'on expliquait aux gens, on disait, oui, mais nous sommes Franzouski, nous, on ne va pas voter, donc sans bien nous voir. Alors, ils nous donnaient dans des tasses de thé pour camoufler. Alors, là, c'est un voyage pour nous très beau. On découvre des conseils ouvriers, on nous conduit dans différents endroits, on découvre cette intelligentsia rebelle qui dirigeait des journaux. Enfin, c'était une atmosphère d'enthousiasme, de chaleur. Encore que, déjà, c'était devenu, il y avait un fond de tristesse, il y avait la répression de la Révolution hongroise, et ils savaient qu'ils allaient être limités. Du reste, très vite, Lefort et moi, on a compris, alors que Dionys encore espérait. Et c'est pour ça que Lefort et moi, on a fait une farce à Dionys. Parce que un jour, Lefort, on dit à Dionys et à Robert, on va aller à Praga. Praga, c'est le faubourg de Varsovie. C'est le faubourg genre est-européen, des maisons en bois, de la terre pas séchée, de la boue, n'est-ce pas, par terre, des poules dans la rue, enfin, C'est le faubourg, le fameux faubourg de Praga. Alors on va à Praga, on va dans le bistrot, et puis là-dessus un type nous dit « Hey les mecs, vous êtes d'où ?» Ben, on est français. « Ah ben moi j'étais dans le nord, ah maintenant ça me fait chier d'être ici. » Combien ça coûte vos pompes en France? Alors, je ne sais pas, on leur dit, oh, ici, ça coûte 10 fois plus cher, bande de salauds. Enfin, et cet épisode nous donne l'idée, à Lefort et moi, de monter la farce à Dionys. Et alors, on se la monte, hein, on se la raconte en prenant le tramway, en riant comme des fous d'ailleurs, parce qu'on l'imaginait. Et alors, on arrive, on trouve Robert et Dionys dans notre hôtel, qui était un hôtel gratte-ciel, hein, tout là-haut. Alors, on dit, nous est arrivé une histoire absolument incroyable. Voilà. Ah, quoi donc, quoi donc. Alors on dit, ben voilà, on était dans un bistrot, dans une caviar noire, et puis un type nous dit, qui parlait le français, nous dit, vous êtes français, oui, vous vous intéressez aux conseils ouvriers, ah oui, tout à fait, on est passionné. Alors écoutez, vous voulez connaître les vrais conseils ouvriers? Ben oui, on veut. Suivez-moi. Alors on fait une description de toutes ces ruelles avec les poules, tout ça. On frappe à une porte, n'est-ce pas? Le type frappe avec, en faisant quelques coups codés, n'est-ce pas? Il explique en polonais à une vieille femme qui nous ouvre, qui nous dit « Entrez mes enfants !» Alors, on arrive dans une salle où on se trouve devant une assemblée, supposée être les vrais conseils ouvriers polonais, et qui nous raconte donc... leur intention d'établir une véritable république socialiste, et qui nous demande d'aller, c'était ça le clou de notre blague, qui nous montre une barquette à l'intérieur duquel il y a des documents, et ils nous disent, vous remettrez ça au camarade Guy Mollet. Alors je ne sais pas si vous savez ce que signifie Guy Mollet, mais c'était la pire horreur pour nous, c'était le socialiste qui avait trahi tous ses engagements, qui avait fait la guerre d'Algérie, etc. Bon. Alors quand Dionys entend ça, il dit « Ah non, moi jamais je ne porterai une barquette à Guy Mollet. » Alors nous, on dit « Mais écoute Dionys, quand même, tu sais, il faut comprendre que eux, ce sont les ennemis de leurs ennemis, donc d'une certaine façon, ils ne sont de collaboration. Jamais, Guy Mollet, jamais, disait Dionys, en piétinant comme un enfant, comme un adolescent qu'il était. » Alors. Pendant on insiste beaucoup, Robert commence à se tordre de rire. Il rit comme un fou. Et puis, brusquement, il s'exclame, il dit, c'est une blague, c'est faux. Et Dionys dit, mais non, c'est pas une blague. C'est la vérité. Ils veulent que j'aille porter la barquette à Guy Mollet. Je ne l'emporterai jamais. Alors, évidemment, on se tord tous de rire. Quand on finit par lui dire que c'est une blague, il a mis un temps avant d'être détrompé. Absolument incroyable.
Je dirais que le groupe de la rue Saint-Benoît a été dans ce sens-là exemplaire, et nous avons tenté toujours avec les amis de n'être pas inertes devant ce qui se passait dans le monde. On a pris ce qui arrive dans le monde a toujours été reçu par nous avec passion. Nous sommes intervenus dans le cours des choses à chaque fois que l'occasion nous en a été fournie. Nous avons été contre la prise du pouvoir par De Gaulle, parce que c'était un pouvoir personnel, etc.
Dans la conduite quotidienne, ça se ressent.
Nous avions comment une nous étions dans une indignation totale devant l'arrivée au pouvoir de De Gaulle. Ça n'a pas été tout le monde
de
en
vomir,
France.
De vomir,
et même certains de nos amis...
Moi, j'en ai vomi.
Et oui, et pourtant, certains de nos amis ont reçu la chose avec un peu de complaisance.
Ah non, beaucoup
oui, Français. Oui. Même certains de nos amis...
Le peuple français a donné sa mesure, là. Qui? C'était le héros. Il sortait de sa cage. Il s'est fait suspendre dans une cage pendant 4 ans.
Donc, oui, comme ça, on pouvait la Jeanne d'Arc a tout faire, quoi.
Ah oui. J'avais dit du mal dès le début.
Oui, oui. Il y a un article dès de vous dans le 14 juillet.
Oui, vous dites du mal de vous.
14 juillet. Numéro 1, 14 juillet 1958. Résistance. Que le général de Gaulle soit au pouvoir, à cela seul nous pouvons déjà mesurer l'étendue de notre défaite. Nous n'avons pas atteint le fond. Nous l'atteindrons à coup sûr si nous ne nous mobilisons pas dès aujourd'hui. En laissant se consolider l'actuel pouvoir, nous irions de défaite en défaite et de plus en plus grave. Il est douteux qu'au XXe siècle, un pouvoir personnel ne conduise pas finalement au fascisme. Il n'y a déjà plus rien qui nous en garantisse immédiatement. Toutes les barrières levées, les bêtes jusqu'ici tenues en respect commencent à se montrer dans le vide qui s'est fait d'un bout à l'autre de la société. À la hauteur d'une telle défaite, à la hauteur d'un tel danger, la lutte à mener doit prendre une forme nouvelle. Elle doit être une lutte acharnée, constante, morale et pratique, intellectuelle et stratégique, d'agitation et de critique, sans autre terme que la victoire complète sur un adversaire qui a pris l'avantage, puisqu'il a le premier passé les bornes de la légalité, et qu'il fortifie sous nos yeux l'arbitraire. Cette lutte se nomme résistance. Elle sera l'œuvre de tous ceux qui se sentent atteints dans leur dignité, plus gravement que jamais depuis le 1er juin 1958. En tout état de cause, nous ne voulons pas d'un sauveur suprême. Nous sommes héritiers d'un peuple qui tient à honneur le régicide quand il s'agit de fonder la liberté. C'est la résistance qui doit s'organiser, non plus cette fois contre l'occupation par des éléments extérieurs, mais bien contre une oppression interne préparée, elle, de longue date. Sournoise ou franche, prudente ou cynique, tolérante, mieux, rassurante, nous subissons dès maintenant cette oppression. Il serait insensé de ne pas la nommer par son nom. Nous n'attendrons pas en esclaves anticipés pour en pouvoir fournir la preuve, de nous trouver totalement réduits au silence. Le répit que la tyrannie naissante est contrainte de nous accorder ne restera pas inutilisé. Nous ne saurions prédire le rythme du processus selon lequel l'actuel régime doit aboutir un jour au fascisme pur et simple. Mais dès aujourd'hui, sans aucun risque d'erreur, nous pouvons poser que le régime de Gaulle est dans la France contemporaine une étape nécessaire à l'instauration d'un fascisme. L'alliance entre tous les hommes résolus à s'opposer à la tyrannie, même s'ils étaient hier séparés sur le choix des moyens, et même s'ils ne s'entendaient pas sur les fins dernières, est aujourd'hui une nécessité vitale. Nos divisions d'hier étaient elles-mêmes l'expression d'une certaine liberté. La soumission aveugle et le mutisme n'en sont pas le remède. Les cimetières à part, ce n'est que dans les casernes que cessent de s'élever les voix discordantes. Nous refusons cet ordre-là.
La prise du pouvoir par De Gaulle en mai 58 provoque, chez les amis de la rue Saint-Benoît, une réaction immédiate de refus. Un refus qui s'exprime sous forme d'une publication le 14 juillet, dont le premier numéro sera précisément diffusé le 14 juillet 1958. En un an, trois numéros sortiront de presse. Aux côtés de Dionis Mascolo, nous trouvons les signatures de Robert Antelme, Marguerite Duras, André Breton, Edgar Morin, Maurice Blanchot ou encore Maurice Nadeau, Louis-René Desforêts et Elio Vittorini.
Le 14 juillet, numéro 3, 18 juin 1959. Le texte suivant a été adressé le 10 avril 1959 à 99 intellectuels français. Ce qui s'est passé le 13 mai 1958, ce qui s'est passé ensuite, constitue un ensemble dont l'importance nous paraît avoir été généralement sous-estimée. Croyez-vous qu'il s'agisse d'événements relevant du seul jugement politique? Ne s'agirait-il pas d'un changement de sens plus grave, représentant notamment pour la pensée, d'une manière manifeste ou encore cachée, comme un changement d'horizon? S'il est vrai que la pensée s'affirme comme contestation de ce qui est, et en particulier comme contestation du pouvoir, le sens profond de l'exigence démocratique n'est-il pas dans ce mouvement, mode fondamental de la recherche de la vérité qui oppose la pensée au pouvoir, les exigences humaines à l'état des choses? À partir de là, le pouvoir issu du 13 mai n'est-il pas déjà en dehors de la démocratie? Non parce qu'il lutterait ouvertement contre la pensée, mais parce que se fondant sur une forme singulière de la souveraineté, mettant en jeu le destin privilégié d'un homme, la puissance d'un nom providentiel, le caractère religieux de son prestige, il se présente comme un pouvoir échappant par son origine et son essence aux contestations de la pensée. Maurice Blanchot, André Breton, Dionis Mascolo, Jean Schuster.
Qu'est-ce qu'il y a de tiré là? Qu'est-ce qu'il y a de tiré? c'est ce merdier là. Vous avez vu quelque chose?
Je sais ce qui s'est passé ici.
Nous respectons et jugeons justifié le refus de prendre les armes contre le peuple algérien. Nous respectons et jugeons justifié la conduite des Français qui estiment de leur devoir d'apporter aide et protection aux Algériens opprimés au nom du peuple français. La cause du peuple algérien qui contribue de façon décisive à ruiner le système colonial est la cause de tous les hommes libres.
Mais si on prend les choses à la lettre, le droit de ne pas opprimer revient au droit de s'insoumettre. Et puisque je suis convoqué par les autorités militaires françaises à aller opprimer, je me dérobe, donc je m'insoumets. Donc le droit de ne pas opprimer coïncide avec le droit de s'insoumettre, il me semble.
Tout à fait, mais est-ce que sur ce dernier point, au moins sur cette formulation, certains de vos amis politiques ou certains de vos amis n'auraient pas pu au moins reconnaître, là, partager cette même idée?
C'est alors qu'ils n'auraient pas aperçu la synonymie que je viens de signaler. C'est-à-dire, vous les supposez alors un peu sots, non? S'ils refusaient d'admettre le droit à l'insoumission et s'ils acceptaient le droit à ne pas opprimer, d'ailleurs, je crois que la traduction du droit à l'insoumission en droit de ne pas opprimer est l'œuvre des amis italiens, dont Elio Vittorini, qui, dans un texte, un manifeste de soutien, comme il y en a eu beaucoup de l'étranger, dans un manifeste de soutien, je crois, l'avait donné justement en synonyme. Le droit à l'insoumission est parfaitement légitime, puisqu'il peut se traduire par le droit de ne pas opprimer autrui.
Il n'y a pas eu à proprement parler 121 auteurs. Mais chaque signataire s'est autoproclamé co-auteur du manifeste. Pourquoi?
En effet, eh bien, c'est que nous avons été rapidement, en quelques mois, surtout sur l'insistance d'un fanatique qui s'appelle Michel Debré, nous avons été une trentaine d'inculpés. Et le juge d'instruction tentait de faire des distinctions, c'est-à-dire demandait avez-vous rédigé? Êtes-vous l'un des rédacteurs? Êtes-vous l'un des diffuseurs? Etc. À quoi, sur une proposition très ferme de Maurice Blanchot, tous les signataires ont été invités par circulaire de nous à se déclarer étant co-signataires, co-rédacteurs et co-diffuseur à titre égal avec tous les autres.
Est-ce que vous avez été poursuivi à la suite de la publication de la déclaration?
Oui, nous avons été, je vous l'ai dit, une trentaine d'inculpés.
Est-ce que vous avez été jugé?
Non.
Pourquoi?
Eh bien, comment? Je ne sais plus comment ça. Est-ce que ça s'appelle amnistie? Non, je ne sais plus. Mais enfin, vous savez, c'est De Gaulle qui a forcé Michel Debré à interrompre les poursuites. Je ne sais pas comment ça s'appelle légalement, mais c'est alors la phrase fameuse de De Gaulle, authentique ou supposée, qui concernait Sartre, lequel rentrait d'Amérique du Sud, et allait être inculpé ou a été inculpé, je ne sais plus. Et la phrase fameuse de De Gaulle, c'est « On n'emprisonne pas Voltaire ».
Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité.
Donc les 121, vous êtes complètement d'accord, Maurice Nadeau.
Non seulement je suis d'accord, mais il vient me montrer tous les brouillons qui successifs. Ce qui est curieux, c'est que je suis toujours d'accord avec lui. Ce qui montre un peu d'esprit critique. Les lettres nouvelles donc, que j'avais à ce moment-là, qui étaient mensuelles, alors, a fait état de tout ce remue-ménage international. Enfin, d'ailleurs, je me souviens, en effet, non seulement les Italiens, mais enfin, les écrivains américains ont fait une pétition pour nous soutenir. Enfin, je recevais un petit peu partout, puisque j'étais, au fond, la boîte aux lettres des 121, quoi, puisque à la fois les adhésions, les signatures passaient par moi, enfin pour les écrivains, pour les artistes c'était autre chose, Mascolo s'en occupait directement, mais bon, l'adresse, il fallait une adresse où les gens puissent, bon, c'était moi.
Jacques-Francis Roland.
Ce n'est qu'après 56 que j'ai rejoint ce comité. D'abord, j'ai signé, un peu plus tard, le manifeste des 121. C'est Dionys, je me souviens très bien, rue Saint-Benoît, ça se passe à côté d'ici, qui dit, je descends de chez Sartre. On l'a fait avec d'autres amis et j'ai rédigé un manifeste de soutien contre les réfractaires, ceux qui refusent la guerre d'Algérie. Est-ce que tu signes? Sartre vient de signer. Je dis, bien sûr, je dois dire, j'avoue que je m'en vante pas, mais je l'ai signé de confiance sans le lire. Et après, je l'ai lu et je n'ai pas regretté d'avoir ma signature. J'avais une petite crainte simplement que ça soit une incitation directe à la désertion. À ce moment-là, je n'aurais pas signé parce que si on ne déserte pas soi-même, on ne peut pas entraîner des jeunes gens, vous comprenez. Mais j'ai signé. Et alors après, j'ai participé à différentes réunions, mais sans aller aussi loin que certains militants qui, eux, s'étaient mis carrément au service du FLN. Moi, je luttais dans le secteur français, en disant qu'il faut mettre fin à cette guerre. Et j'étais d'ailleurs pas révoqué, j'étais suspendu un mois de mon lycée Henri IV, où j'étais avec Jean-Louis Bory, le regretté Jean-Louis Bory, qui lui aussi avait été suspendu.
Le monde va changer de base, nous ne sommes rien.
Rien à dire, vous comprenez, il y a des flics à côté, on va pas quand même déclarer aux flics comment nous on va se défendre. Ici, en France, quoi qu'on fasse maintenant quand on est étudiant, on doit le faire en présence de quatre moustachus qui sont flics. Et nous, on marche pas.
Il n'est pas de la presse, oh, vous avez un brassard presse, vous êtes de la presse?
Oui, je fais partie du journal des armées.
Le perfide déclare que c'est une attaque du pouvoir, c'est-à-dire de l'État, contre des étudiants. Et alors pourquoi passe-t-il par une juridiction universitaire qui soi-disant bénéficie des franchises universitaires? Alors dans ce cas, la police a à se tailler. Ou alors c'est vraiment un procès politique contre des étudiants et on le fait au palais de justice avec tout le tintamarre, des avocats, le spectacle, on refait le truc des Guadeloupéens.
Maintenant il faut savoir où on en est et ce qu'on a été chercher.
Je voudrais vous signaler, monsieur.
Oh, vous pouvez me regarder, vous avez ma photo en 36 fois.
Daniel de Bels.
Comment faire pour que on ne fasse pas simplement œuvre, ce qui bon, soit déjà considérable, mais pour que cette œuvre elle-même touche à ce qui est finalement nulle part ailleurs que dans la vie, l'essentiel même de l'existence. Et ça, c'est le point le plus le plus difficile dans le fond à penser. C'est pourquoi ce qui est immédiat ne se donne jamais dans l'immédiateté, sauf dans quelques moments historiques révolutionnaires, peut-être comme mai 68 ou quelques journées de la libération de Paris, ou probablement effectivement ce qui s'est passé sous la Commune, puisque Dionys dit très fortement qu'en France, en tout cas, les vrais moments révolutionnaires n'avaient pas existé depuis 1870-1871. Et c'était parce que là, c'est pas la figure même de la révolution dans ce qu'elle prend historiquement comme aspect qui compte. C'est l'élan, c'est l'affirmation au même moment où ça se passe de la perte. Il n'y a pas d'inscription, l'inscription vient après et elle va être souvent terrifiante. Mais c'est cette sorte de moment de grâce en fait, qui peut toucher un peuple entier, qui est immédiatement dénié. Pourquoi cette dénégation constamment revient, et même sous la forme pire encore de la négation, par certains côtés du négationnisme, etc. Mais pourquoi cette dénégation sur ce qu'on vit? Bon, là, je crois que c'est lié en partie à une sorte de dichotomie que Dionys, à sa façon aussi, essayait de penser, qui est celle de la part consciente et de la part réellement inconsciente de nos existences.
Jean-Pierre Saez.
Eh bien, je crois qu'il y a eu dans la vie de Dionys, et comme dirait Edgar Morin, deux moments extatiques de l'histoire, si l'on veut, deux moments d'extase de l'histoire qu'il a pleinement vécu. C'est d'une part la libération, c'est d'autre part mai 68. On pourrait même ajouter un troisième moment très important pour le groupe, c'est la fameuse année 1956. Et je crois que mai 68 a été à la fois un moment qui a représenté un grand espoir, l'espoir d'une communication avec les nouvelles générations, entre ces écrivains du groupe, du comité étudiant-écrivain monté avec Marguerite Duras et Maurice Blanchot, entre autres. Et il y a quelque chose, sans doute, qui s'est brisé là. En tout cas, il n'a plus retrouvé, vous avez raison, après... il ne s'est plus investi avec la même passion qu'en mai 68. Peut-être qu'il ne parvenait plus à trouver des prétextes. Je me souviens même que, à l'époque où le mur de Berlin est tombé, en 1989, il était évidemment très intéressé, très, très passionné par l'actualité, mais... ça ne le mobilisait plus, je dirais, en tant qu'intellectuel, c'est-à-dire en tant que personne représentant la sphère culturelle, intervenant dans le monde politique et délivrant un message à caractère justement politique.
Il ne seriez plus acteur, en fait.
C'est ça. Il n'était plus... oserais-je dire qu'il n'était plus exactement dans le coup. En tout cas, il était sur la réserve. Peut-être que une autre explication, c'est que les réseaux qui avaient fonctionné auparavant et dans lesquels Dionys participait activement, eh bien, ces réseaux n'étaient plus non plus les mêmes. D'une certaine façon, son cheminement reflète l'évolution du rôle des intellectuels dans la société française. Et son retrait, somme toute, est significatif aussi du fait que, après 1968, sauf un certain nombre d'exceptions, mais le reflux des intellectuels sur la scène publique a été de plus en plus, je dirais, spectaculaire par défaut, et notamment après que la question des camps et la question de l'URSS soient traitées, je dirais, de façon un peu définitive par Solzhenitsyn, par exemple. Mais sur ce point-là, on ne peut rien reprocher à Mascolo et aux amis de la rue Saint-Benoît qui ont quand même vu clair un peu plus tôt que bien d'autres de leur génération. En faisant le bilan des différentes actions collectives auxquelles vous avez participé, est-ce que vous arrivez à percevoir la part des hommes de pensée sur le cours des choses ?
L'influence des hommes de pensée sur le cours des choses. Elle est indéniable, mais elle s'accomplit par des voies souterraines qu'il est très difficile de reconstituer. La diffusion lente de certaines pensées, de certains refus, de certaines indignations, de certaines révoltes, puis le moment où elles atteignent une intensité suffisante, elles touchent un assez grand nombre pour avoir un effet même sur les détenteurs du pouvoir. Tout cela est un processus en général très lent, sauf dans les périodes que l'on appelle précisément pour cela révolutionnaires. Et évidemment, ce sont les périodes que nous souhaitons de tout cœur, mais qui ne sont pas là, se présentent pas du jour au lendemain. Et les périodes révolutionnaires sont proprement celles où il y a une accélération du passage de l'idée dans les faits, dans l'état de choses.
La notion d'esprit d'insoumission qui définirait la ligne de votre action signifie-t-elle qu'il faut s'insoumettre tout le temps à n'importe quel pouvoir ?
À la rigueur, oui. C'est-à-dire, qu'il faut s'insoumettre, du moins ne pas se soumettre à n'importe quel pouvoir, puisque tout pouvoir est par essence provisoire, imparfait. Il représente un point du progrès de l'humanité sortant de la misère, peut-être, mais il est encore misérable. Tout pouvoir est misérable. Tout pouvoir est détenu par des impuissants qui se sont résolus précisément pour avoir le pouvoir à leur impuissance.
Mais le pouvoir n'est-il pas inéluctable et ne faut-il pas le considérer justement de manière pragmatique du fait de son inéluctabilité ?
Il est inéluctable et de même l'esprit d'insoumission, si vous voulez, ce que je veux dire, la faculté de refus. Se refuser à tenir pour valable l'état de choses, c'est l'attitude qui prouve l'existence, je ne dirais pas même d'une intelligence, mais l'existence de l'âme.
Avec les voix de Dionis Mascolou et Marguerite Duras, la participation d'Edgar Morin, Jacques-Francis Roland, Maurice Nadeau, Daniel Dobels et Jean-Pierre Saez, lecture André Wilms. Les archives sont extraites de L'Esprit d'insoumission de Jean Mascolou et Jean-Marc Turine. Numanétique, Le Bureau de Dionis, une émission de Jean-Marc Turine. Mixage, Édouard Campras et Pierrick Charles. Réalisation, Dominique Costa.
Demain, à 23h, rendez-vous pour Poésie et ainsi de suite par Manou Farine, avec la poétesse Lucie Taïeb, les auteurs Renaud de Puter et Guy Bordin, l'éditrice Aurélie Morin et l'écrivain Alban Lefranc. La semaine prochaine, Les Laissés pour Compte par Jacques Souvent et Gaël Gillon. Jeudi, Main d'Orlac par Ludovic Chavarot et Céline Terce. Dans le territoire de minuit, survient Philippe Garbi pour les Nuits de France Culture.